Atelier Fiction, bonsoir. Ce soir, dans Atelier Fiction, dernière émission de la série Les icônes du rock, une série imaginée par Cécile Baquès avec Céline Geoffroy. Ce soir, Les doigts écorchés de Sylvie Robic. Après Elvis Presley par Laure Limongi, Patti Smith par Claudine Galéa, Mick Jagger par François Bégodeau, c'est aux anonymes, aux amateurs que rend hommage l'écrivain Sylvie Robic. Un groupe d'adolescents réunis par la passion de la musique, un frère trop tôt disparu, la rencontre avec un groupe de rock anglais. Ce sont les thèmes autour duquel se construit ce récit, voyage intérieur, lieu de mémoire, chambre d'écho du présent. Deux voix se répondent, celle du narrateur et celle du frère perdu. S'y ajoute celle d'une jeune fille. C'est une réalisation de Jean-Mathieu Zande.
Les doigts écorchés de Sylvie Robic.
Première note.
Il y a forcément plusieurs débuts. Le premier se dilue sur une quinzaine d'années, du milieu des années 60 au milieu des années 80. Il met en scène deux garçons et leur mère, en province, au sud-est de la France, sur les contreforts du Vercors. Ce n'est pas tout à fait un début, presque rien encore. Nos enfants ordinaires provinciales, une mère très jeune, un peu débordée, des paysages de basse montagne. Les deux couleurs de ces temps-là sont le vert et le blanc. Mais la musique aussi est une couleur. La plus brillante, la plus intense. Mon père et maman se rencontrent dans un bal au début de l'été 62, un peu moins d'un an avant ma naissance. Je suis sûr qu'ils dansent. On aime tous danser dans la famille.
C'est une jeune fille qui, à 18 ans, tombe amoureuse d'un type venu là pour faire la saison. Leur histoire dure à peine 3 ans. Le saisonnier la quitte quand naît leur second enfant. Elle n'ira pas à la maternité, il ne donnera plus jamais de nouvelles, il part.
Mon père, je l'ai à peine connu. De lui, je n'ai aucun souvenir véridique, pas même son visage. Mais au moins, il m'aura pris dans ses bras. Ça fait entre toi et moi une sacrée différence. Tout ce qu'on sait, ce que maman nous a dit, c'est que c'est toi qui lui ressembles le plus, physiquement, et d'après elle, dans le caractère.
Et puis surtout, il aimait chanter, il adorait ça. Il aurait pu faire carrière, il avait, paraît-il, une voix magnifique.
C'est la seule chose qui nous ait laissé, ce goût de la musique. Toute notre enfance dans la musique.
Dans la maison, de la musique partout, tout le temps, pour combler son absence.
C'est pas sérieux, mon amour. Tu sais, tous les amis croient sûrement qu'on est mort.
Ça commence aussi au printemps 78. Nous sommes dans la chambre de Bruno. Toi, moi, Delphine, Bruno et son grand frère Jean-Pierre. Pour un moment irréversible.
Jean-Pierre vient de passer directement de Led Zepp aux Sex Pistols et c'est venu si vite, sans transition, son look n'a pas eu le temps de suivre.
Jean-Pierre, cheveux longs et chemise baba, nous fait découvrir Anarchy in the UK. Nous sommes électrocutés, les doigts dans la prise.
La pochette du 45 tours est noire, avec des effets blancs et gris de papier collé et une grosse épingle à nourrice. Pas de photos des musiciens, le mystère de la déflagration reste entier, du son informe et rageur, des fauves dans le studio.
Dans les semaines qui suivent, en descendant à Grenoble avec maman, j'achète mon premier disque au centre commercial Alma, sur les conseils de Jean-Pierre.
C'est un 33 tours, No More Heroes, des Stranglers. Une couronne mortuaire avec des roses très rouges, un avis de décès du disco et des musiques planantes.
No More Heroes. À présent, le rock emplit nos vies. On échange nos disques entre copains. J'ai une pile délirante de cassettes enregistrées. On a très peu d'infos sur nos disques préférés. Ça nous laisse toute latitude.
On crée notre mythologie sans rien connaître des groupes que le son et les pochettes. On se sent précurseur et clandestin. On demande à maman de nous couper les cheveux très courts. Elle n'est pas d'accord. Alors on le fait nous-mêmes. L'effet est saisissant.
C'est l'automne 80. On va fonder notre groupe, et moi qui suis nul en musique, qui ne joue d'aucun instrument, qui a horreur de chanter, je vais prendre la basse. En plus, j'ai déjà mon idée sur le nom du groupe. Il y aura eu des commencements, c'est vrai. Mais ensuite un immense cafouillage. Un voile blanc anesthésiant sur près de 20 ans. 20 années sans relief, sans aucun son ni couleur. Une amnésie consentie, et même volontaire.
Il paraît que le secret d'Elvis Presley, c'est d'avoir eu un frère jumeau mort-né, auquel il aurait, sa vie durant, essayé de parler.
Alors que toi et moi, c'est l'inverse. J'ai tenté pendant des lustres de faire comme si tu n'avais jamais été. J'ai changé de lieu, d'amis, de vie, j'ai espéré me changer moi-même. Comme si je n'avais pas eu de frère. Comme si le rock n'avait pas existé. Je ne saurais pas bien expliquer comment ni pourquoi c'est revenu. Mais la date précise, ça, oui. À la mort de Maurice Pialat, dans la nuit du samedi 11 janvier 2003. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'accident. D'accident de mobylette. Et au réveil, je n'ai pas pu m'empêcher de songer très fort à toi. J'ai décidé d'assister aux obsèques de Pialat. J'ai senti que tu serais d'accord. Peu de temps après la cérémonie, Stéphane, un type de boulot avec qui je suis vaguement lié, mais sans plus, me propose de l'accompagner à un concert. Ça fait 20 ans que je ne suis pas allé à un concert, depuis mon arrivée à Paris. Ça me fait un peu peur. J'y vais à reculons. Le lundi 17 février 2003, au nouveau casino. Heureusement, la salle me plaît, pas trop grande. Je ne sais pas grand-chose du groupe qui passe ce soir. Stéphane m'a montré une photo dans le journal. Quatre kids rigolards, en jean et black jacket. Ils sont anglais, c'est déjà ça. Du nord de l'Angleterre, c'est encore mieux. Des anglais de Sheffield, avec un drôle de nom.
Hogboy, est-ce que ça a un sens? Le hog est un cochon, mais hog avec deux G, qu'est-ce que ça peut vouloir dire?
C'est leur premier album, All Right. C'est-à-dire All Right, avec l'accent du nord. Leur premier concert en France. Mais les voilà. Ils sont là tous les quatre. Ils ont surgi comme de nulle part du côté gauche de la scène. Ils sont déjà en place et ça commence très speed et très fort. Ils pulsent une énergie sèche, directe, frontale. Quelle surprise! C'est chavirant. Je suis excité. Excité. Un rock tendu, dégraissé, avec les rythmes les plus rapides, les plus chargés d'adrénaline. Jamais je n'aurais cru revivre ça. Le guitariste a l'air tellement jeune et justement, ses doigts saignent. 45 minutes tout compris, pas de temps mort. Rien que du temps vivant au contraire. De la high energy. C'est fini. La salle se rallume. Le brouhaha reprend. Mon pote prétexte de son fanzine pour tenter de les approcher. Moi aussi j'ai envie d'y aller. Parce que je le sens comme jamais depuis des années. Ça pourrait bien être ma chance. C'est encore un début. Où une histoire commence pour de vrai. Au nord de l'Angleterre, un soir de l'hiver 2001.
Ça se passe au Washington, un pub que fréquentent tous les musiciens de Sheffield.
Au-delà des Midlands, Liverpool, Manchester, Sheffield, sur une même latitude. Le gris du ciel, l'ocre foncé des vieilles fabriques et des métaux rouillés. On a quelques images. Le rock'n'roll et la fin des usines, la patrie des Beatles, les grèves très dures des années 80, le désarroi des villes post-industrielles. Ce soir-là, Tom Hogg arrive au Washington vers 7h. Quand il n'est pas dans son appart, Tom vient au Washington. Il aime l'ambiance, il connaît tout le monde, il attend confusément quelque chose. Tom en a marre de jouer pour les autres. Il veut faire sa musique, seul chez lui, avec sa guitare. Il écrit des chansons, des nuits entières.
Tom ne mange pas beaucoup, mais il y a la bière et les cigarettes.
Il fait sans arrêt le siège des labels indépendants et de tout ce qui compte ici dans le milieu de la musique. Tom est têtu. Pour le moment, ça n'a rien donné, mais on le trouve sympathique. Son opiniâtreté lui vaut un surnom.
Hogboy, garçon Hog, c'est déjà un nom de groupe.
Tom ne le sait pas encore tout à fait, mais ce soir, il en a peut-être le pressentiment. Ce soir, au Washington, il doit faire affaire avec Bailey, puis Richie. Bientôt, dans pas longtemps, Hugh va s'adjoindre au trio. et à eux quatre, ils deviendront une entité. Un seul rock style à quatre corps, un seul mot pour eux quatre. Hawkboy, sans S à la fin.
Enfance.
Il y aura une mobilette. Mais avant, il y aura eu le car. D'abord le car jaune citron du ramassage scolaire. Le car reste aujourd'hui mon moyen de transport préféré.
Sauf dans les virages.
Je dois avoir 7 ans. Et toi, mon petit frère, logiquement, à peu près 5. Nous sommes deux garçonnets avec des bonnets à pompons déboulant dans le car en chantant à tue-tête.
Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver.
C'est toi qui as la voix la plus forte.
Le car est toujours plein quand il arrive en bas de chez nous.
Je te tiens sur mes genoux. Je sens ta chaleur à travers la norac et le lainage. Ton corps doux et mou. Comme une petite maman, je t'en serre la taille de mes bras croisés. As-tu tête ? Une drôle d'expression. Justement, nos têtes se frôlent. Parce que tu te tournes vers moi, tu n'arrêtes pas de bouger. Dans la dernière épingle à cheveux avant l'école, j'ai ton menton à hauteur de mon nez et de ma bouche. J'embrasse et je lèche délicatement par-dessous l'os de ton menton. Un baiser tendre, léger, absolu. C'est un après-midi de janvier ou février. On doit être encore assez petit car c'est avant qu'on ait chacun notre lit. On dort tous les deux dans un grand de place où tu ne cesses de gigoter et de me coincer contre le mur. On est au lit l'après-midi parce qu'on est malade. Sûrement la grippe.
On a beaucoup de fièvre.
C'est comme une vision définitive qui me reste de l'enfance. Délimitée par le cadre de la fenêtre dans notre chambre aux boiseries sombres. Un grand rectangle blanc, compact, éblouissant. La trouée blanche du dehors dans le brun presque noir des lambris de la chambre. Et toi, et moi, agglutinés l'un à l'autre.
On ne sait pas ce qui nous attend.
On est en pyjama, on tousse, et on sent le suppositoire. Les mèches de cheveux collées humides sur nos tempes bouillantes. On grelotte et on transpire par à-coups sous l'épaisseur protectrice de l'édredon.
Est-ce qu'on est bien ?
Je fixe la neige au dehors. Je ne bouge pas d'un pouce. Et puis maman, anxieuse, penchée sur nous, ses mains caressantes sur nos fronts, sur nos ventres qui gargouillent, le tien ou le mien, impossible de savoir, nous formons un seul corps moite. Elle met des disques pour nous distraire. J'entends pour la première fois la voix grave de Nico chanter Sunday Morning. Cette nuit-là, sans doute à cause de la fièvre, j'ai une hallucination. Je me réveille en sursaut, persuadé que notre père est là, qu'il a fait irruption dans la chambre en pleine nuit pour nous embrasser. Il n'ose pas dire un mot, ni allumer la lumière. Mais il est là, j'en suis sûr. J'attends longtemps sans presque respirer, les bras et les jambes repliés en papillon. Ça va devenir un jeu, le rituel du papillon. On va le pratiquer, toi et moi, sans nous décourager des années durant, les nuits où le vent et les bois craquent dans la maison.
On n'entendra jamais sa voix.
Seulement la comptine du Velvet. Seulement la voix de Nico. C'est un jour de grand soleil, un peu blanc, du printemps 76. Et si j'ouvre les yeux, du ciel bleu pâle tournoie au-dessus de moi. J'ai 13 ans aujourd'hui. Tu chantes à mes côtés. C'est une chanson de maman. Sur la pochette du disque, Nino Ferrer est assis, comme nous, dans une prairie verte. Avec ça et là, les dernières plaques de neige. Il porte un pull chaussette, gris et noir, et autour du cou, un foulard à ramages dans les tons ocre brun. Il est assis, simplement, en tailleur, face à l'objectif. Ses mains croisées sont à l'avant de l'image. Je flash sur sa gourmette à gros maillons. J'imagine qu'il y a son nom dessus. Nino, Nano, mon nanounet, les surnoms que te donne maman. Tout l'amour de maman dans une minuscule litanie et ce quelque chose d'italien. Je me dis, Nino Ferrer doit ressembler à mon père. en plus blond. Est-ce que mon père, là où il est, sait que c'est aujourd'hui mon anniversaire? Je me tourne vers toi pour te dire à l'oreille, la photo du disque, on l'a prise chez nous, dans le pré, à la fonte des neiges. Mais tu t'es déjà redressé, tu me martèles les côtes avec des cris de sioux, tu catapultes méthodiquement les mottes de terre, les brins d'herbe d'un vert gras m'atteignent en gros plan.
Plus d'un million d'années.
J'inspire un bon coup. Le volume est à fond.
Et toujours en été.
On a grandi d'un coup. Tu fais ma taille à présent. Les mêmes jeans, les mêmes sweats. Maman dit tendrement, mes anges broussailleux. C'est un après-midi d'été au début des grandes vacances. Il fait chaud. Avec Bruno, on vient boire une menthe à l'eau dans la cuisine de Delphine. Les odeurs d'essence s'exacerbent avec la chaleur. Elles montent du garage jusqu'à nous. Toi, tu es resté en bas avec son père. Tu négocies l'achat d'une mobylette, même si tu n'as pas encore l'âge. Maman ne veut pas, mais tu t'en fous. De toute façon, c'est toujours toi qui parles. Moi, ça m'arrange. Delphine a sorti les verres du placard. Le mien est légèrement ébréché. Je sens sur ma langue comme une incertitude râpeuse, quelque chose de troublant. À moins que ce ne soit plutôt la sensation de la peau de Delphine, ses taches de rousseur, sa présence laiteuse contre moi sans que j'ose la regarder. Elle a une frange raide, comme Jane Birkin. Dans les vapeurs d'essence, la pensée me vient sans raison de l'odeur de pipi des filles. J'ai vraiment chaud.
Adolescence.
C'est une rentrée morne à la fin du collège. On est, toi et moi, avachis contre le talus à l'arrêt du car. Nos sacs à dos informes à nos pieds, on n'échange pas un mot. On attend.
Si on savait quoi.
Comme si on avait fait très à l'avance notre baluchon pour partir un jour dans la vraie vie.
Mais bon.
Le car bleu du ramassage scolaire ralentit dans la descente du col. Il s'ébroue en freinant pile devant nous. On grimpe dans le car sous les encouragements de Queen, qui voudrait qu'on se sente, nous aussi, des champions, my friend.
We are the champions. We are the champions.
Mais Queen, c'est nul.
Another one bites the dust.
Another one bites the dust.
Another one
bites the dust. Et dire que maman refuse toujours qu'on ait une mobylette.
Tous les copains sont vautrés au fond, un tas indistinct de jeans, basket, blouson. Juste devant eux, deux filles et un garçon du collège Cato se tapent alternativement sur la tête avec une bouteille de plastique vide. Ça les fait hurler de rire.
Le hit parade continue d'égrener ses âneries.
Et il y a une place libre à côté de Delphine. C'est l'été 79. Il doit faire très beau dehors. On est tous les deux avec Bruno dans le noir de la chambre. On a décidé de ne plus ouvrir les volets. On écoute très fort, extatique, No More Heroes des Stranglers. D'en bas montent faiblement des exclamations exaspérées, suraiguës.
On désespère maman.
Maman n'a pas la force ou la sagesse de comprendre que le rock s'est en partie fait pour ça.
Le rock a été inventé pour sortir les petits garçons des prisons des caresses maternelles.
Le rock est une guerre inévitable pour échapper à sa mère.
À l'amour et à la haine de sa mère.
C'est sûrement pourquoi on fait comme si on ne l'entendait pas.
Même quand elle hurle en tambourinant à la porte.
D'ailleurs, on l'entend pas.
On est absorbé, dévoré par la musique.
La musique se met à nous définir entièrement. Nous qui n'avions pas de look, on commence à saisir l'importance d'une bonne panoplie, notamment auprès des filles. Nous aussi, contre l'avis de maman, on se coupe les cheveux très courts, sans miroir, pour mieux ressembler à Rimbaud.
C'est à ce moment que la guerre contre maman se déclare vraiment.
Dans le noir de la chambre, déchiré par la basse et les hurlements de Jean-Jacques Burnel, je rêve de la prochaine boum du lycée. Je rêve d'y étreiner le t-shirt que j'ai savamment lacéré en cachette. Il me faut d'urgence une paire de lunettes noires en plastique. Quelques épingles à nourrice et surtout un blouson de cuir. Nous sommes en juillet 80. Comment pourrais-je me douter que ça va être notre dernier été?
Maman n'est pas en forme, elle a des crises de larmes. Elle dit qu'elle n'arrive à rien avec nous, elle prend des médicaments.
Elle a accepté pourtant de nous laisser travailler. Pendant 2 mois, à l'épicerie, tabac, quincaillerie de tic-tac. Toi, c'est pour la mob. Moi, pour une basse. Parce qu'avec Bruno, on a envie de monter un groupe à la rentrée. On veut franchir le pas et tout. On veut avoir un vrai son. Un son commando. Mais sur une ligne simple, minimale. Un leitmotiv de guitare sur 2 cordes. Il suffira d'un guitariste un peu expérimenté. On mettra une affiche au lycée en septembre. Bruno va chanter. Tu l'aurais fait très bien, mais tu te fiches un peu de notre projet. Tu as simplement accepté la batterie parce que ça te semble plus rigolo. Tu fais des essais sur des barils de skip. Je te sens pas vraiment motivé. Ça fait 2 mois que je ne capte plus bien ce qui te trotte dans la tête. Tic Tac t'a fait une faveur. Il t'a remis fin juillet l'argent de ton été. Tu n'as jamais eu aucune patience. Le père de Delphine t'a à la bonne. Te voilà propriétaire d'une bleue magnifique.
Une MBK refaite à neuf.
Dès que le boulot chez Tic Tac est fini, tu files sillonner la région, tu disparais des week-ends entiers, ou bien tu vas narguer les filles. Tu déboules en mob du coin de la rue, tu fonces droit sur elles en hurlant comme un apache, tu bifurques juste au dernier moment, les filles se dispersent en piaillant, tu roules au ralenti devant la piscine sans nous jeter un regard, certains qu'on t'admire. Le soir, à la maison, j'écoute en boucle No More Heroes. Je fantasme complètement sur le son de la basse. J'ai hâte de reproduire ce son. J'ai hâte de devenir musicien. Automne 80. Je décide que la basse est un accessoire aussi indispensable à mon look que le blouson de cuir noir et les slogans bombés sur mes t-shirts. Chez Disque 2000, à Grenoble, j'épluche méthodiquement les petites annonces. Je finis par acheter une Fender avec un ampli. Une super occasion. Je suis pas bon, mais bizarrement, ça ne me décourage pas du tout. Ce qui me surprend et que j'aime d'emblée dans ma Fender, c'est qu'elle n'ajoute rien. Elle sonne comme moi je sonne. Et peu à peu, dans la répétition, ça vient. Quelque chose se passe, physique, souterrain. Ça remue le ventre, ça vibre en moi comme le désir des filles. Je me fiche de mal jouer. Je veux juste ressentir ça. À la rentrée 80, la basse cesse vite d'être un accessoire pour devenir un instrument. Et pas seulement pour tomber les filles. Je suis avec les copains en face du lycée, assis sur le trottoir, encombré d'étui et de sacs à dos. Dans le local, il y a déjà la batterie, prêtée par un pote de Jean-Pierre. J'ai oublié la clé, alors j'ai téléphoné Dardar à la maison pour te prévenir, puisque tu descends de ton côté.
Comme d'hab, en mobilette.
Ça fait un bail qu'on t'attend. Voilà. Ça va être la dernière image de mon adolescence, des copains, de l'insouciance, de la joie d'être ensemble à déconner et à rêver. Moi, Bruno et Tino, assis côte à côte, les genoux relevés, à hauteur de visage, nos grandes carcasses pas finies, inconfortablement posées sur le bitume, nos blousons de cuir noir. Putain, tout ce qu'on va faire ensemble. Eh bien non, justement, il ne se passera rien. On ne sait pas encore tous les trois, mais tout est déjà terminé.
Avant même d'avoir réellement commencé.
Ça vient de se produire en douce, dans notre dos, dans un mauvais virage.
Juste avant d'arriver à la Nationale, sur la route du Nord. Le dimanche 24 novembre 1980, un temps de chien, la pluie comme de la neige fondue.
On ne formera pas, toi et moi, une section rythmique d'enfer. Cette complémentarité merveilleuse, les mini-signes échangés pendant le concert pour s'ajuster, être en place, un fil invisible tendu entre toi et moi, quelque chose d'amoureux. Je ne serai pas un bassiste aux doigts abîmés, ensanglanté par le travail, puis peu à peu endurci par une corne invisible si épaisse qu'on peut écraser dessus une cigarette. Tu viens de mourir au fond d'un ravin d'un banal accident de mobylette. Je ne serai jamais musicien. Le 20 septembre 2003. Hier, au boulot, Stéphane m'a reparlé de Hogboy. Il donne un second concert à Paris, dans une petite salle porte de la Villette, le Glazart. Hogboy n'a pas son pareil pour ressusciter l'exaltation radieuse de mes 17 ans, pour raviver malgré moi tant d'émotions ensevelies. C'est aussi simple que ça. Je n'y peux rien. Je suis en passe de devenir un fan. Je connais Orait par cœur. Et j'ai étudié à la loupe les photos de l'album. Bailey Bass, Hog Voice, Richie Drums, Hugh Guitar. Maintenant, j'ai l'impression que ce sont des copains. Pourtant, je ne les ai croisés qu'une fois en vrai. C'était en vitesse en février dernier, à la sortie du nouveau casino. Stéphane leur a sauté dessus dans un anglais improbable. Ils nous ont souri gentiment. Ils se sont engouffrés dans un taxi. Le public est clairsemé et très jeune, avec pas mal de filles. Surtout devant, à mes côtés, à la hauteur de la scène. Il y a une blonde semée de taches de rousseur qui me fait penser à Delphine. Elle se met à hurler quand les Hogs déboulent sur scène. Elle saute en l'air en criant. Tom n'a pas sa black leather jacket, mais une chemise rouge ajustée. La fille semble surprise. Elle lance en anglais quelque chose que je ne saisis pas. Tom lui répond au micro avec un sourire carnassier. « Because we are in Paris. » Hog Boy attaque avec So Young et enchaîne avec Hug et Death of a Friend dans un même élan, sans respirer. Les filles sont surexcitées. La blonde enlève son pull et me frôle en le nouant à sa taille. Elle se fait une queue de cheval. Elle est en débardeur gris, très échancré. Ses seins tressautent au rythme de la danse. J'aspire l'odeur moite de son cou, de ses aisselles. Les bretelles de son soutien-gorge me fascinent.
De fines lignes noires qui zèbrent sa peau claire, elle a vraiment quelque chose de Delphine.
Sa peau gote sec autour de nous. Les Hogs tiennent toujours une pêche d'enfer. C'est upside down, trempé, hagard. Ils fument en jouant, ils se regardent. Les deux guitaristes sont tout près l'un de l'autre. Hugh a encore un doigt qui saigne. Son doigt brille sous la lumière des spots. Il joue en titubant presque. Tom fait un geste furtif, affectueux sur la nuque de Hugh. Il hurle son nom au public. Le band est exsangue et nous avec. Alors sur la fin, il relâche le rythme. Il donne Don't Get Lost, l'une de mes préférées. You couldn't see straight. And you couldn't see yourself so.
Comme un signe d'amitié, un encouragement.
Don't get lost. Don't get lost. Don't get lost. Dans les semaines qui suivent, je m'arrange pour dénicher les coordonnées du label indé qui, en France, distribue le groupe. Je tombe au téléphone sur une fille charmante qui m'apprend qu'à l'occasion, elle-même s'occupe des Hogs. D'ailleurs, elle comprend ma ferveur. Elle les aime beaucoup. Elle les trouve so cute. Notamment Bailey, pas vrai? Elle s'appelle Chloé. Pour l'instant, elle n'a aucune actu en vue avec eux. Mais si ça m'intéresse, c'est promis, elle me tient au courant. Seulement, ça risque de ne pas être pour tout de suite parce que, d'après ce qu'elle sait, ils entrent en studio pour travailler au nouvel album. Il y a de drôles de hasards. À Noël, cet hiver-là, maman, qui depuis tant d'années évite avec une vigilance extrême la moindre allusion qui pourrait nous ramener au passé, me parle de Delphine. Elle est revenue. Elle l'a aperçue au supermarché. Mon Dieu, comme elle a épaissi. Il paraît qu'elle a épousé Bernard Malaval, l'entrepreneur.
Dans le fond, ça ne m'étonne pas.
C'était couru d'avance.
C'est logique, finalement, qu'elle se soit mise en ménage avec ce con friqué. Qu'elle devienne une grosse dame fade installée sur les hauteurs du village dans une atroce maison neuve.
À la question de savoir si Delphine aujourd'hui pourrait vivre quelque chose qui ressemble à du bonheur, je ne trouve pas de réponse. Peut-être même que ça me devient égal.
Gentlemen, 400 boys.
I'm gonna take you. You want to do soon. We're gonna pick you.
On est au printemps 2004. Je guette chaque semaine dans le New Musical Express la sortie du nouvel Hog Boy. Depuis cet automne, je me suis renseigné sur eux. J'ai lu méthodiquement tout ce qui existe.
En 2002, Orait est classé 8e meilleur album de l'année par le magazine français Rolling Stone. 3e meilleur album par le quotidien Libération. So Young passe sur MTV.
C'est un départ en fanfare. Les garçons Hog multiplient les tournées. Australie, Japon, USA, France, Espagne, Canada, Allemagne, Hollande, Belgique. Ils se font vite remarquer. D'abord en première partie des Libertines, des Strokes, des White Stripes ou des Yeah Yeah Yeah, puis pour leur propre compte. Des gigs toujours intenses, mouvementés. Ils tournent dans le monde entier. Tous ces voyages, ça me fait fantasmer.
Comme un seul homme avec le matos, dans le car, Le train, le bateau, l'avion, les répétitions, les balances, l'hôtel, dormir 3 à 5 heures par nuit.
Ce dont j'avais naïvement rêvé. Jouer, chercher, déconner ensemble, Janville et Hogg. Le nouvel album sort en avril en Angleterre. Il est en juin dans les bacs français. Il s'appelle « 7 Miles of Love ». Je suis ridiculement ému, comme par un cadeau spécialement composé à mon intention. Le disque me plaît d'emblée. Dans la foulée, je rappelle Chloé, elle ne m'a pas oublié. Elle m'apprend que le 28 août prochain, Hog Boy sera à Rock en Seine, dans le parc de Saint-Cloud. Si ça me fait plaisir, elle peut m'avoir un pass pour le festival. Et bien sûr, me présenter au band. Je sors du métro et je rejoins la foule qui, des deux côtés de la Seine, converge vers les grilles du parc. C'est une sacrée chance pour Hog Boy. Programmé à 16h15, sur la grande scène, pile au moment où le public commencera à se rassembler sur les pelouses en prévision de ce soir et du concert de Muse. Ils vont être parfaits pour chauffer l'ambiance, une aubaine pour gagner des fans. C'est une sacrée chance pour moi. Comme si mes sens anesthésiés se réveillaient, comme si mon existence, si longtemps engourdie, retrouvait sa couleur. J'ai rendez-vous avec Chloé au contrôle des invitations presse. Il se met à pleuvoir. Une pluie d'été, lourde, compacte. On finit par apercevoir à travers les gouttes les cabanes blanches des contrôles.
Il y a sur la droite, un peu à l'écart, une fille en longue cape de plastique vert qui gesticule au téléphone.
Je suis sûr que c'est elle. Une brunette sautillante, un peu speed. Pas tout à fait mon genre, mais elle a l'air gentille et plutôt prévenante.
Et pour l'heure très préoccupée.
C'est Graham, le manager des Hog, qu'elle a au bout du fil. Il y aurait un big problème. Non seulement la liste des invités du band n'est toujours pas à l'accueil, mais bien plus grave, il semblerait que le groupe lui-même ne soit pas arrivé. Les Hog ont loupé le ferry, c'est aussi bête que ça. Chloé a les yeux rouges de fatigue et d'énervement. Une occasion pareille, merde, ça ne se ratait pas. Elle a raison. Et bien sûr, je ne lui dis pas, elle risquerait de le prendre mal, mais moi, je les aime encore plus pour cette malchance foutraque. Même si je regrette pour eux. Ils seront là en début de soirée. Ils joueront à 22h sur la petite scène de la cascade, c'est-à-dire au pire moment, en plein pendant le show de Muse. Je devine à son air que, malgré sa déception, Chloé pense aussi, après tout, ça leur apprendra. Elle me propose, si je veux, de les rencontrer avant le concert, mais pas après, parce qu'ils devront filer hélico pour rentrer chez eux dans la nuit. Je propose à Chloé de boire quelque chose, avec une part de frites, pour la remonter. D'accord, mais vite fait. Elle doit retrouver une copine. À 20h, sur la grande scène, Melissa of the Moor remplace dans une envolée de décibels les Black Rebel Motorcycle Club. Dans le carré VIP, on ne s'entend plus. Plus exactement, on n'entend plus Chloé. Elle assure à elle seule les frais de la conversation. Moi, je n'ai rien à dire. Son amie Julia semble assez réservée, avec une frange châtain, des gestes doux et de longues jambes.
Peut-être est-elle timide ou alors elle s'ennuie.
Je réalise en y songeant que ça me déplairait beaucoup qu'elle s'ennuie. Difficile de lui donner un âge, sûrement plus que Chloé.
Autour de la trentaine.
Mais en même temps, c'est bizarre, elle fait beaucoup plus jeune, avec une expression d'enfance. Avant son arrivée, Chloé m'a un peu parlé d'elle. Elle est photographe. Elle travaille en freelance pour des magazines rock, c'est plutôt dur. Elle vient photographier Hog Boy pour Rock Tension. Est-ce que je connais Rock Tension? C'est un bon fanzine, ce sont des potes à elle qui s'en occupent. Non, je connais pas Rock Tension. Je le regrette d'autant plus que je commence à trouver leur photographe diablement troublante. Ou est-ce simplement l'excitation de rencontrer les Hog? Je ne sais pas. Tout se mélange, le bruit, la chaleur, l'alcool, les désirs. Un type vient prévenir Chloé. Ils sont arrivés, nos quatre de Sheffield. Je suis ému, comme à un premier rendez-vous amoureux. C'en est peut-être un. D'abord, c'est leur allure fragile qui me frappe. Très menu, pas bien grand, so british. Plus encore que sur scène. Et puis il s'exprime dans une langue à laquelle je ne comprends absolument rien. C'est pas grave de rien entendre. C'est bon d'être là, assis sous la tente, entre Tom et Richie. On s'offre des cigarettes, on sourit, on boit des bières.
Julia a sorti son appareil photo, un Nikon.
Je flotte dans une ouate colorée où tout d'un coup, bizarrement, ça me revient. Un film sur les Beatles qu'on était descendu voir à Grenoble. Toi, moi et maman. « A Hard Day's Night » de Richard Lester. Je devais avoir 12 ou 13 ans. Il parlait avec le même accent du Nord et ça m'avait estomaqué. C'est aussi comme ce prénom.
Julia.
Ma chanson porte bonheur sur le White Album.
Tout a un sens.
Je n'aurais jamais osé imaginer que ça puisse un jour se reproduire. Ce sentiment si rare à l'échelle d'une vie. La parfaite justesse de la première fois, qui fait, un court instant, se sentir miraculeusement à sa place.
Julia demande si elle peut prendre des photos. Il n'y a plus beaucoup de lumière. Ce serait mieux dehors, devant la tente.
Of course. Ils sont affectueux, rigolards. On va les laisser se reposer. On leur souhaite bonne chance pour tout à l'heure. On se dit au revoir chaleureusement, simplement, comme de vrais copains.
Drop me off at the same place. I keep it quiet, but I won't ask your name. Tell me stories and remember your face. The things you're doing, I know you'll replace me.
Je suis au fond du lit, avec la touche repeat sur la 11. Le rock noisy de Hog Boy se ralentit, il devient hypnotique. J'écoute la 11 en boucle. La longueur mélancolique de Mile High Club, des images remontent. C'est une séquence nocturne derrière le collège. Les cours de tennis sont déserts, balayés par un vent de neige, et pourtant, dans les vagues du blizzard, j'entends distinctement l'impact des balles sur la terre gelée.
Des échanges sans joueurs, de plus en plus rapides, agressifs, mortels.
Quelque chose s'est ouvert en moi, dont je n'ai plus peur. Replongé dans l'herbe odorante du temps, avec, contre l'oreille, mon magnéto calé sur rewind. Revoir, sans que ça ne me fasse quasiment ni chaud ni froid, et l'âme fine, acérée, des séquences enfouies.
Enfin, quasiment.
Parce que le présent devient le plus important, et les chansons des Hog, dans leur rythme compté, leur réalité précise, vivante. Je vais revoir Julia, on s'est donné rendez-vous au café, elle veut me montrer les photos de rock en scène. Elle en apporte une seule. Je trouve la photo drôle, énergique et bancale, à l'image exacte de Hog Boy. Ça fait rougir Julia que je lui dise. Je suis un peu fébrile en m'engouffrant dans le métro. Sur la banquette devant moi, une très vieille dame déguste du beurre, sans rien avec, directement dans le papier d'emballage. J'ose à peine y croire. On a pris l'Eurostar à 10h19 ce matin. On était à Londres vers midi, à la gare de St Pancras. On a eu à 13h25 un direct pour Sheffield, le samedi 9 octobre 2004, en milieu d'après-midi. C'est une idée de Julia.
Organiser tous les deux un petit reportage, texte et photos pour Rock Tension. Partir 2 ou 3 jours, interviewer les Hog.
Autour d'un week-end, et j'ai posé mon lundi. Le paysage du nord de l'Angleterre défile.
Les deux filles plaques assises en face de nous sont intarissables. Mais rien ne semble pouvoir distraire Julia de sa lecture. Elle lit des guides et des revues, elle se documente sur la ville.
Moi, je suis incapable de me concentrer, parce que je pense à elle tout le temps. et parce qu'aussi je préfère m'en tenir à mes connaissances vagues, à quelques clichés mythiques.
Le froid, la pluie, le chômage et la vitalité du rock.
La ville natale de Hogboy. Leur point de chute après les World Tours. L'endroit où ils reviennent toujours.
La quatrième ville d'Angleterre, autrefois spécialisée dans l'acier et les couteaux, un monstre industriel vieillissant qui tenterait une improbable reconversion.
On est sur le point d'arriver. La gare est en travaux, dans tous les sens, de tous les côtés. D'abord, on ne trouve pas la sortie.
Bailey surgit de nulle part, comme par magie. Il y a soudainement devant nous la silhouette dégingandée de Bailey, manteau noir, écharpe Burberry, la régularité de ses traits presque féminins.
Dans le brouhaha des marteaux-piqueurs et des voyageurs égarés. Il nous conduit au Rutland Arms, à 5 minutes de la gare. C'est conformément à notre demande ce qu'ils ont trouvé de moins cher. Un pub auberge avec 4 chambres minuscules au-dessus du bar, pour un prix défiant toute concurrence.
Julia précise timidement qu'il nous faut 2 chambres. Elle est un peu fatiguée, elle monte un instant se reposer.
Je regarde avec un brin de vague à l'âme ses longues jambes et ses jolies fesses grimper l'escalier du premier étage. Avec Bailey, on prend une bière au bar. On est trop nombreux pour s'entasser dans la R5, alors on prend un taxi. Un énorme cab noir où l'on s'assoit en face à face, comme dans un salon. Ce soir, les Hogs nous emmènent au Faggins. Au début, je ne comprends pas bien le nom. Et puis Hugh m'explique. C'est à cause du personnage de Faggin dans Oliver Twist. C'est leur quartier général. Ils y vont presque tous les soirs. Ils ont l'air vraiment contents de nous y introduire. Je le prends pour une marque de confiance. On commande des bières. C'est Hugh qui aime le plus ce pub, c'est évident. Hugh prononce « Bob ». C'est le Hog qui parle le plus vite, avec un fort accent, avec des « yes » sonores qui ponctuent ses phrases expressives. Julia s'est levée. Elle tourne autour de notre table en prenant des photos. Elle a donné aux garçons ses essais de rock en scène.
Ça leur plaît.
Julia me frôle en se rasseyant. Je la sens contre moi. Elle rit. Elle rit beaucoup. Avec Julia, on occupe une bonne partie du dimanche à déambuler dans Sheffield. Je regarde Julia photographier. Je n'ai pas encore osé l'embrasser. Je suis un crétin. On est assis sur le gravier, aux abords d'un immeuble en démolition.
C'est étrange. C'est comme si on se promenait, toi et moi, dans un vieux livre de photos de Martin Parr. Un bouquin des années 70 qui s'appelle Bad Weather.
Elle a dit, toi et moi.
Un voyage dans les années 70-80.
En effet.
Les mêmes grandes usines de briques. Les mêmes rues défoncées, sauf que tout aurait été vidé et déserté.
En effet. Cette impression que je connais par cœur. La vie s'est retirée d'un coup, mais tout demeure figé, à l'identique, dans une immobilité grimaçante. Sauf que, ce que je suis en train de découvrir, c'est que cette impression est fausse, illusoire.
Dans la vie, rien ne reste jamais comme avant.
À commencer par ce qui nous avait semblé le plus constitutif de nous-mêmes. Et pour Sheffield, c'est pareil. Malgré les fermetures d'usines, le désastre économique, la ville est en chantier, elle ouvre ses entrailles, elle veut rester vivante, elle produit des cris, de l'énergie, du son. Par exemple, Hogboy.
On a rendez-vous avec Tom vers 16h au Washington.
Pour regagner avec lui la répète, parce que c'est tout près. Le regard droit, aiguisé de Tom, sa détermination frappante. Arriver à ce qu'il veut, coûte que coûte, sans tricher. Être Hogboy et rien d'autre.
C'est une immense fabrique désaffectée. Une ancienne usine de vis et de boulons. C'est ici que la plupart des groupes de Sheffield viennent répéter.
1-2, ça démarre fort. Ils sont tout de suite en phase. Ils jouent à fond, comme sur scène. Julia les mitraille. La joie d'être ici, sans se lasser, reprendre, retravailler, répéter la même chose. Je ne sens plus le froid. Je suis dans un état second, dans la pure énergie de la musique.
Quand on quitte le local épuisé, sonné, les oreilles bourdonnantes, la nuit est déjà tombée.
Ce soir, ils nous emmènent assister au concert des Fights, des potes à eux pas encore connus. Julia monte en voiture avec Bailey, Tom et Hugh. Richie et moi, on fait le trajet à pied. Ça m'intimide. Richie est celui que je connais le moins. Ça l'agace peut-être qu'on soit là. On marche en silence. Il a sur son t-shirt noir une veste de peau retournée, marron, au col remonté. Comme s'il s'en mitouflait. Comme s'il voulait se protéger. Il y a quelque chose de doux, paisible, à cheminer ainsi côte à côte sans un mot. Richie sort ses cigarettes, il m'en propose une. Je lui demande s'il est né à Sheffield. Non, dans une petite ville à une dizaine de kilomètres où vit encore sa famille. Lui, ça fait seulement 5 ans qu'il habite ici. Son ton est cordial. Ça ne semble pas le déranger de parler. Il vient d'une vraie famille de musiciens. Son père chante et joue de la basse. Il a aussi des frères qui jouent. Il a toujours baigné dans la musique. Dans son enfance, de la musique, partout, tout le temps. Quand il avait 12-13 ans, son père lui a rapporté d'un club une vieille batterie pourrie, et ensuite, la première vraie, il se l'est offerte quand il a commencé à bosser. C'est comme ça qu'il est devenu drums addict. Avant les Hogs, il a eu plusieurs autres groupes à Sheffield, dont l'un a sorti un single en 99. Et ses frères? Il n'y a pas de temps mort. Richie répond de sa voix retenue mais distincte. Il a 4 frères. Le plus jeune joue de la basse dans un groupe disco. Il se débrouille bien. Il fait des tournées. Il sort des disques. Le deuxième aussi jouait de la basse dans des bands. Il n'a pas eu de chance. He passed away in 97. Je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu. He passed away about 7 years ago. À présent, on n'est plus que 3 musiciens dans la famille. Il l'a dit pudiquement, sans flancher.
C'est une petite conversation dans la nuit triste ou nette de Sheffield, dans son froid humide, de ces mots dérisoires et profonds que se disent parfois les copains.
Là, au détour d'une rue sombre, mine de rien, j'apprends à Richie ce que depuis 20 ans je suis absolument incapable de révéler à quiconque, ni d'ailleurs de me formuler à moi-même. Moi aussi, j'ai perdu un frère. Il est mort à 15 ans dans un accident de mobylette. C'est sorti d'un coup. Death of a brother. La R5 de Belley est garée devant le forum. Ils nous attendent sur le trottoir. Julia vient de s'acheter un fish and chips. Hugh et Belley lui fauchent quelques frites. Tom parlemente pour les billets. Il nous fait tous rentrer. Au forum, l'ambiance est assez arty, plus étudiante que les lieux habituels du band, avec toutes sortes de looks.
Quelques Iroquois égarés.
Les gens sont très excités. Tout le monde rigole fort, on boit bière sur bière, on porte des toasts. L'impression d'avoir l'oreille collée aux amplis et le cœur qui bat la chamade. Je cherche Julia dans la foule. Julia rapplique Hilar en me tendant un mini diaporama en forme d'appareil photo.
Des filles à poil dans des postures porno.
Une soirée pleine de contrastes. J'ai le tournis. L'espace soudain est saturé de couleurs, de vibrations électriques. Mes doigts plongent comme en rêve dans les cheveux défaits de Julia. J'encadre de mes mains ses joues pulpeuses. Je couvre comme un dingue son visage d'une multitude de baisers menus, serrés.
Une rafale de baisers.
J'ai contre ma langue le sourire éclatant, amoureux de Julia.
On n'est plus au forum. On est dans une chanson des Hogs. On est au Mile High Club.
Je serre Julia dans mes bras et j'aperçois derrière nous, accoudé au bar, un type qui nous regarde avec bienveillance. Un type âgé, aux cheveux gris. Le sosie de Piala.
Il y a des signes dans la vie.
Et il faut y croire.
Doigts écorchés de Sylvie Robic. Découpage radiophonique, Cécile Baquès. Avec Quentin Bayot, Sylvain Dieuède, Raphaël Bouchard. Équipe de réalisation, Mathieu Leroux, Claude Niort, Julie Béressy, Jean-Mathieu Zand. Les doigts écorchés est publié aux éditions Naïf.
Vous écoutez France Culture, c'est l'atelier fiction, deuxième partie avec Case Study Houses de Mathieu Berthelet, monologue inspiré par la vie à Los Angeles.
Je devrais pleurer pour me libérer, mais je ne peux pas pleurer, je ne sais pas pourquoi. Et il y a la maison. She lights a cigarette, and there is this house. She touches the trunk. La maison disparaît. La nature la envahit. On ne devine plus où s'arrête le jardin. La cour, la pelouse, où commence le salon, la chambre des enfants. La piscine presque vide, l'algue verte, les feuilles mortes,
même un oiseau mort. C'était ce que nous voulions. Nous n'avons jamais aussi bien réussi qu'aujourd'hui. La nature, une maison dans la nature.
Plus de traces de nous. De lip gloss sur les miroirs, de parfums dans les armoires, des parois écaillées, le sol soulevé par des racines, des pousses dans les poteaux, une flaque dans la pénombre. Je ne la verrais pas si j'avais oublié que nous l'avions construite pour mettre nos rêves dedans. Plus de grands arbres.
Dans la pénombre, on ne la trouverait plus. Il y a une ville, pas loin. L'architecture ne résout rien.
L'architecture est une solution d'homme à des problèmes de femme. Nous avions des rêves. Il y a une ville, juste derrière,
pas loin, qui flotte. Dans la pénombre, quand on ferme les yeux, on peut l'entendre. Nous étions venus ici pour être loin. Loin de la ville. Pour être seuls. Toi, nos rêves et moi. Et moi. Nous étions modernes. Nous étions résolument modernes. Nous lui avons donné des formes qui aillent avec nos rêves. Des arches en joie précontraintes. Des pierres chaudes. Du bois doux sous la paume. Plein, pas d'épines, des surfaces lavables, des meubles avec des angles ronds, des jardins intérieurs, une pelouse de pré, une piscine en poire,
une maison en bois,
sans frontières avec la nature,
une maison autour d'un arbre, contre lequel tu me faisais l'amour.
Nous avons fait une maison sans y mettre des rêves. Des enfants.
Une belle maison
en bois. Des formes. De la lumière.
Pas de limite.
Ouverte sur le dehors.
Tu voulais être moderne.
Mais c'est toujours moi qui prenais la poussière sur nos surfaces planes et lisses.
Here is our house.
Voilà notre maison. Dans la pénombre, en fermant les yeux, on devine encore qui elle était.
Notre maison.
Nous voulions y mettre des rêves. Appuyer notre amour au pied d'un arbre.
Nous n'avons pas d'enfants.
Tout était fait de promesses et de rêves.
De mélanger les rêves et les enfants.
J'emporte l'arbre avec moi.
Le lip gloss que j'ai laissé sur les verres, mes cheveux dans l'évier, mon parfum dans les armoires, ma photo sur la table de nuit, un peu de sang sur le manche de la scie. Pas longtemps, tout sera oublié.
Tu amèneras une autre femme? Une femme de la ville, de la poussière dans les cheveux, du rouge à lèvres de France.
Elle lavera les traces que j'ai laissées avec un chiffon doux, un peu d'eau chaude et du vanille oxy.
La nature a repris la maison. Le bois se met à vivre. On le voit bourgeonner. Les jardins rejoignent les cours. Les laminés se sont écaillés. Le bois pourri. Même quand le corps est enterré, le rêve continue à vivre. J'ai dû me tromper un peu pour que tu puisses me tromper beaucoup. Sur tes intentions, tes promesses, cette maison. Tu ne voulais pas d'enfant. Je me suis trompée sur nos rêves. On s'est trompé.
Toi, moi, moi, moi.
Je me suis trompée. Injuriée. Je suis injuriée du dos. Le fond surtout. Une plaie qui ne se referme plus.
Erin 1981, texte tiré de Cage to the Houses, Mathieu Berthollet. Avec Sarah Blamont. Musique et création sonore, Seyset. Réalisation, Alexandre Planck.
Vous écoutez France Culture, c'était l'atelier fiction. N'hésitez pas à réécouter, podcaster ces émissions sur le site franceculture.fr. Ce soir, c'était la dernière émission de la série Les Icônes du Rock, suivie de Case to the Houses de Mathieu Berthollet dans quelques instants, Les Nuits de France Culture.